Je vous invite à ouvrir à nouveau avec moi, s'il vous plaît, le psaume 23, qui est notre texte de référence. Nous en voyons bien d'autres, évidemment, mais notre texte de départ de méditation, c'est le psaume 23, et plus particulièrement les trois premiers versets. Dans ce psaume, ce cantique, cette contemplation de David, il est écrit, psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. » On a vu, frères et sœurs, hier soir, que pour connaître la véritable restauration, le relèvement, la guérison intérieure, appelez ça comme vous voulez, il y a nécessairement des chemins. Tout ne se traite pas dans la vie chrétienne avec des coups d'imposition des mains ou des coups de baguette magique. Il y a des chemins qu'il faut emprunter, qu'il faut comprendre. Il y a des chemins qui vont nous permettre d'expérimenter une vraie restauration. Mais il y a aussi, et il faut en être conscient, de faux chemins qui sont véritablement des impasses, des ornières, des faux chemins de restauration. Il y a derrière certaines attitudes qui sont spontanées dans la nature humaine, de faux bergers derrière lesquels se cache l'ennemi de nos âmes, et ces faux bergers nous empêchent de trouver le vrai repos, la vraie guérison, la vraie restauration qui nous empêche de trouver les verts pâturages ou les eaux paisibles dont il est question ici. Rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, on a vu deux choses simples. Toute la série de messages est très simple, c'est très pragmatique. Ce soir, je vais vous dire encore des choses extrêmement simples. Mais j'aime ces textes et ces réalités de l'Écriture qui sont simples à dire, mais qui sont difficiles à mettre en pratique. Parce qu'il y a des choses qui sont faciles à dire. Mais quand il faut les mettre en pratique au quotidien, on sent tellement de combats dans nos âmes, tellement de résistance dans nos vies. La première voie de restauration, très simple, c'est de commencer à regarder ses blessures. C'est d'admettre, c'est de reconnaître qu'on est blessé. Les faux chemins de restauration, on en a parlé, c'est le déni, la dissimulation, des chemins qui ne nous mènent nulle part, qui sont de véritables impasses. On peut ignorer ses blessures, mais même si on ne les regarde pas, même si on les dissimule, on peut les cacher avec une couche d'activisme, une couche de religiosité, on peut les dissimuler avec ce qu'on veut, de toute façon les blessures restent. Et toutes les blessures qui ne sont pas traitées, c'est physique, la nature nous enseigne. Lorsqu'une blessure n'est pas traitée, il y a nécessairement infection. Il y a nécessairement putréfaction, désolé pour le terme qui est un peu cru, mais il y a putréfaction, c'est vrai. Et les blessures restent. Il y a putréfaction et les blessures s'accumulent. J'aime beaucoup la parole de Dieu et tant d'hommes comme David qui n'ont pas eu peur de mettre des mots sur des situations. Lorsque David écrit « Il restaure mon âme », je vous l'ai dit, le contexte, c'est la trahison d'Absalom et aussi la trahison de son meilleur ami, son confident, son premier conseiller, Achitophel. Et on a vu ensemble dans le psaume 55 que David, comme dans le psaume 23 ou ailleurs, n'a pas peur non seulement de mettre des mots sur une situation, mais aussi il ose dire, lui le héros national, lui qui évidemment a tué l'ours, qui a tué le lion, qui a tué Goliath, celui dont on chante, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Le héros national n'a pas peur de dire, je ne vais pas bien, mes larmes sont ma nourriture quotidienne. Psaume 55. Et quand je lis ça, quand je laisse l'esprit aller dans les profondeurs de mon cœur avec ces textes, ça me permet d'être, je le dis ainsi, décomplexé, libéré de la honte, libéré de la honte de la blessure, libéré de cette culture, de cette, pardon, fichue culture d'église dans laquelle il faut toujours absolument tout cacher parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être cassé, parce que. Mais on a vu aussi dans ce balancier que je vous ai montré hier soir, souvenez-vous, on a vu aussi qu'il faut un équilibre. Si on ne peut pas tomber dans le déni, si on ne peut pas tomber dans la dissimulation, si on ne peut pas effectivement négliger les besoins de notre âme, ce serait une pure inconscience. On ne peut pas non plus passer notre vie à regarder nos blessures. On ne peut pas passer notre vie à parler de nos blessures. À un moment, il faut dire stop. Il faut mettre un stop dans l'errance, dans la divagation de notre âme. Il faut mettre un stop et puis il faut aller vers un vrai chemin de restauration. Et regarder sa blessure en permanence, ce n'est pas ça qui l'a fait cicatriser. D'accord ? Et on avait vu essentiellement sur la fin du message qu'il ne faut jamais, mais au grand jamais, sous aucun prétexte, jamais laisser notre âme prendre la direction des opérations. Jamais. Il faut mettre des mots sur des situations. Il faut dire ce qu'on ressent. Il faut absolument traiter, gérer les blessures. Il faut les regarder en face. Il faut mettre les choses en place. Il faut les appeler par leur nom. Mais on ne laisse jamais à notre âme la direction des opérations. Si votre âme est aux commandes de votre vie, pardonnez-moi, vous êtes complètement perdu. Parce que votre âme, elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment on va dans le chemin des eaux paisibles. Le chemin de la paix, l'âme humaine ne le connaît pas. Le vert pâturage, le chemin du repos, l'âme ne la connaît pas. Parce que le propre d'une brebis, on l'a vu hier soir, si elle est belle, attendrissante, si elle est mignonne, elle est tout ce que vous voulez, une brebis. Oui, mais le propre d'une brebis, c'est qu'elle ne peut pas se remettre sur pied toute seule quand on l'a renversée. Le propre d'une brebis, c'est qu'elle est aveugle, elle ne peut pas se diriger. Le propre d'une brebis, c'est qu'elle est incapable. On l'a chanté, je suis incapable de me diriger. Et le propre d'une brebis, aussi mignonne soit-elle, pardonnez-moi, c'est qu'elle est têtue. C'est un des traits de caractère qu'elle partage avec le mulet. Elle est têtue. Alors il faut absolument mettre ce stop, ne pas laisser à notre âme la possibilité de diriger. Parce que notre âme, naturellement, elle va toujours aller vers un chemin d'abattement, vers un chemin d'apitoiement, elle va aller vers un chemin de vengeance, elle va aller vers toutes sortes de faux chemins, spontanément, naturellement. Mais il faut à un moment, comme on l'a vu hier soir, je vous avais montré toute cette liste de psaumes et d'hommes, toutes ces listes de psaumes dans lesquelles des hommes, à un moment, ont dit stop. Ils ont enfin réagi, ils ont arrêté de s'apitoyer sur eux-mêmes, ils se sont débranchés des circonstances, ils ont arrêté de se focaliser, de mettre leurs yeux sur des situations, et ils ont tourné leur regard vers celui qui était plus grand que leurs blessures. Et la première voie de restauration, enfin la deuxième plus exactement, c'est de reconsidérer le berger. Mon âme a besoin de retrouver le bon berger. Et mon âme... Bien des hommes parlent à leur âme et l'obligent à se tourner vers le berger. Que tu en aies envie ou que tu n'en aies pas envie, il faut le faire. Mon âme, ça te plaît, c'est bien, ça ne te plaît pas, c'est pareil. Si tu restes tel que tu es là, dans 20 ans, écoutez-moi bien, dans 20 ans, on en reparle encore. Si dans les 3 jours qui là, vous ne sortez pas, guéri, restauré, si vous ne sortez pas de votre aigreur, de votre amertume ou de votre colère, si vous ne sortez pas de votre esprit de culpabilité, croyez-moi, dans 20 ans on en reparle. Ce ne sera pas moi, mais un autre viendra et il recommencera parce que l'Esprit de Dieu sait vers quoi il faut mener les brebis. Il faut absolument prendre mon âme et la ramener au berger. Il faut que je me débranche, que je me déconnecte des circonstances et que je me reconnecte sur celui qui refait le vase, sur celui qui me remet sur pied, sur celui qui me rétablit, qui me reconstruit, sur celui qui va ensuite me conduire, sur celui qui est plus grand que mes blessures, sur celui qui est, il n'a pas la guérison, il est la guérison de mon âme. Ce soir, j'aimerais voir avec vous une troisième voie. La troisième voie est très simple, c'est qu'à un moment, la brebis, une fois qu'elle a authentifié ses plaies, une fois qu'elle les a admises, qu'elle les a reconnues, une fois qu'elle a arrêté de s'apitoyer sur elle-même et qu'elle s'est laissée, qu'elle s'est abandonnée au bon berger, une fois qu'elle a été remise sur pied, la troisième voie logique, c'est que la brebis, il faut qu'elle s'abandonne à la voie, V-O-I-X, du bon berger. La voie, retrouver la voie. V-O-I-X du bon berger, pour pouvoir retrouver la voie, le chemin, V-O-I-E, du bon berger. Sa voie, VOIX, me conduit dans sa voie, parce qu'il faut que je sorte de là où je suis. Les chocs de l'existence, les injustices dont j'ai été victime, ce qu'on m'a fait, m'a mis dans une impasse, m'a mis dans une ornière, m'a mis dans un précipice. J'appelle le bon berger, je me tourne vers lui, il vient, il commence à me remettre sur pied. Mais une fois que je suis sur pied, qu'est-ce que je fais? Je suis sur pied pour être sur pied. Pourquoi je suis sur pied? Quand je suis sur mes pieds, c'est parce que je vais marcher, je vais quelque part. Pourquoi vous... Enfin, le conseil d'administration est sympa, il vous a mis des chaises dans cette église, c'est génial. Parce que quand vous êtes là, vous êtes venu écouter, vous n'allez nulle part. Vous n'avez pas besoin d'être debout. Non, vous n'allez nulle part, vous êtes assis. Mais à partir du moment où je veux aller quelque part, je vais me lever. Et si je me suis mis debout, ce n'est pas pour rester debout, puis compter je ne sais pas quoi, les nuages. Non, je me suis mis debout, le Seigneur m'a remis sur pied, ben, c'est pour avancer, c'est pour aller quelque part. Il faut que je sorte de mes ornières. Il faut que je sorte de mes impasses, il faut que je sorte de ma douleur, il faut que je sorte de ce qui a triomphé de moi, de ce qui m'a détruit. Il faut que je me sorte, je ne peux pas rester dans cette impasse, dans cette ornière, appelez ça comme vous voulez, vous avez compris de toute façon. Si Dieu nous remet sur pied, si le bon berger remet sa brebis sur pied, c'est pour qu'elle avance. Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme ». Il me conduit. La chose que David dit immédiatement après, il me remet sur pied, il me restaure, c'est il me conduit. Parce qu'on ne va pas rester là. Si ? Vous êtes bien dans vos injustices ? Vous êtes heureux avec toutes les voies et toutes les méchancetés, tout ce qu'on a pu vous dire ? Vous êtes bien avec vos inquiétudes ? Est-ce que je suis heureux avec ceci ? Non, bien sûr que non. Merci Seigneur, tu me remets sur pied, mais quand je vois ce que j'ai souffert, mais... Mon âme, mais sauve-toi de là, vite, retrouve la voie, reprends le chemin et sauve-toi de là, reste pas là, ne reste pas là. Sinon, il n'y a pas de vraie restauration. J'ai besoin de retrouver la voie du bon berger. C'est le même verset, c'est tout de suite après, c'est le verset 3, il y a une voie de conséquence. Il me restaure, il remet mon âme sur pied et il me conduit dans les sentiers. J'ai besoin de retrouver la voie, VOIX, du bon berger, pour revenir à sa voie, VOIE, à son chemin, à son sentier. Il me conduit dans les sentiers de la justice. On parlera peut-être plus un peu plus demain, je vais voir comment le Seigneur me conduit dans la méditation, mais peut-être demain on parlera un petit peu plus de ce qu'est réellement le sentier de la justice. Il faut que la brebis accepte à un moment qu'elle est incapable de se diriger. Il faut que la brebis accepte de revenir à la voie du berger. C'est quand même pas la brebis qui va dire au berger où il faut aller. Mais nous, inconsciemment, combien de fois on dit au Seigneur où il faut aller et ce qu'il faut faire ? C'est quand même pas le patient qui va dire au médecin ce qu'il faut faire. Si, quand vous allez chez votre médecin, vous lui dites quelle ordonnance il vous faut ? C'est quand même pas le patient, le blessé, qui va dire à son chirurgien, avant d'avoir une bonne bouffée d'oxygène qui va l'endormir avant l'anesthésie générale, qui va dire, au fait, docteur, là, quand vous serez au niveau de la rate et du pancréas, vous me faites ça comme ça et comme ça, et vous me faites ça bien parce que je vous garantis que sinon je vous pète. Jamais on a dit à notre médecin ce qu'il avait à faire. Il me dit, on va faire ça. La voie de salut, la voie de restauration, la voie qui va vous permettre de sortir de cette impasse, on va faire ça et ça, et on va le faire comme ça, et on va le faire à tel moment. Et si votre médecin vous dit, c'est super urgent, je vous opère dans 15 jours, vous ne dites pas, ouais, on verra ça dans 2 ans. Non, 14 jours avant, vous êtes devant la porte de l'hôpital et vous dites, bon, il faut qu'il m'opère. Parce qu'il vous l'a dit, alors on se dépêche. Évidemment, ce n'est pas le patient qui va dire au médecin ce qu'il a à faire, ce n'est pas la brebis qui dit au berger ce qu'elle a à faire, ce qu'il a à faire. Et on a vraiment besoin, en tant que brebis, à discerner, à être à l'écoute de sa voix. Il y a forcément, frères et sœurs, un moment où il faut y aller. Il faut pratiquer les chemins. Il faut faire ce que le berger dit. Beaucoup de brebis, j'en ai vu souvent, ont été remises sur pied. Mais une fois qu'elles sont sur pied, elles restent là où elles sont. Elles ne bougent pas, elles attendent. On ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend. Et des brebis, elles attendent le retour du Seigneur. Bah, si c'était pour faire ça, il valait mieux rester par terre. Hein. Si je suis debout, c'est pour aller quelque part. Et combien j'ai besoin d'être à l'écoute de la voix du bon berger. Et là, on ne parle pas de lecture biblique. Je vous ai dit que je ne serais pas un pasteur Yaka ni un pasteur Faucon. Et là, il n'y a pas des réflexions toutes faites du genre « Vous lisez votre Bible ?»« Vous avez lu votre Bible combien de temps aujourd'hui ?» Ce n'est pas de la lecture kilométrique dont j'ai besoin. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, que ce soit dans les réunions, dans ce qu'ils entendent des messages, ou sur Internet, ou dans leur lecture personnelle de la Bible, beaucoup de gens, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais beaucoup de gens surfent sur la Bible. Ils se promènent, ils font comme du surf. Mais ils ne vont jamais dans les profondeurs de la parole de Dieu. On surfe, on fait de la lecture kilométrique, et on s'imagine que parce qu'on a lu beaucoup notre Bible, c'est sûr que quand vous avez lu 5 chapitres, là le Seigneur il fait une convocation générale des anges, puis tout le monde vous regarde. Ah parce que là il est épaté le Seigneur, hein. Franchement il n'avait jamais vu ça quoi. Un chrétien qui a lu 5 chapitres ce jour-là, et le lendemain il en lit 10, oh là là, ah le Seigneur il est épaté. Hein. Ce que j'ai besoin c'est d'être profond, j'ai besoin quand j'ouvre cette parole, d'être pleinement conscient qu'elle est la voie VOIX de Dieu, qui va me conduire dans la voie VOIE, qui ne m'arrange peut-être pas, que je n'ai peut-être pas choisi, mais qui va me conduire dans le chemin de la vie, vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Et j'ai besoin d'aller au fond du livre. Un homme de Dieu disait un jour ceci, lorsque vous ouvrez la Bible, allez au fond du livre et laissez le livre aller jusqu'au fond de vous. Et si vous avez lu un texte, un verset, et que ça change votre vie, eh bien, merci Seigneur. Et il nous faut de la profondeur. J'ai besoin de la voix, d'entendre la voix de Dieu. J'aurais tellement d'anecdotes à vous raconter à ce sujet, mais il faut que le temps tourne, il faut qu'on avance. On cherche le sentier. Je cherche la clé dans ma situation. Il y a forcément une clé, il y a forcément une parole, un réma de Dieu, une clé qui va être là vraiment la clé nécessaire pour déverrouiller une porte, pour déverrouiller une situation, pour me faire avancer, pour me sortir de mes impasses. Et c'est ça dont j'ai besoin, d'avoir cette attitude de cœur et dire « Seigneur, je veux entendre ta voix, je ne veux pas assouvir ma conscience religieuse évangélique, je veux entendre ta voix ». Et puisqu'il est question de sentier, peut-être on en reparlera encore demain des sentiers. Vous savez, un sentier, c'est petit. Le sentier, il n'est jamais bien indiqué. Le sentier, il faut vraiment le chercher. Vous allez à Manosque ou n'importe quelle ville, vous trouverez toujours des panneaux bleus où il y a marqué A51, autoroute. Ça, c'est indiqué partout. Mais quand vous cherchez un sentier, il n'y a pas longtemps avec mon épouse, on voulait se balader sur les hauteurs du côté de Volx, comme ça, je lui dis « Ah tu vois, regarde, la grande montagne là entre Volx et Villeneuve, chérie, je veux aller là-haut, je veux grimper, je veux aller voir le coup d'œil, etc. » Puis on a commencé avec la voiture, on a commencé à chercher un peu, ben je vous dis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein. Parce que c'est pas indiqué, ben oui, parce qu'à un moment il va falloir laisser la route, il va falloir laisser sa voiture, il va falloir mettre des bonnes chaussures, puis il va falloir y aller à pied, il va falloir monter. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, mais si, tu sais, il faut que tu ailles par derrière là-bas, machin, mais tu laisseras ta voiture, là tu vas trouver un sentier, et ensuite, ben, je ne l'ai toujours pas trouvé, mais bon, voilà. Mais j'irai, on va y retourner, je veux aller là-haut, et je veux voir le paysage. Le sentier, il faut le chercher, il faut le vouloir, parce que cette voie de Dieu, ce sentier de Dieu nous sort de nos impasses. Le sentier, ce n'est pas une autoroute large et spacieuse, vous l'avez compris. Mon âme, elle n'a rien à faire pour trouver l'autoroute, c'est automatique. Elle a un GPS intégré, il y a un radar, c'est automatique. On me fait quelque chose, paf, et un gros panneau bleu qui sort de mon âme, A51, autoroute de la vengeance. Fou, ça se fait tout seul. Autoroute de la critique, autoroute de la rancune, autoroute de la colère, autoroute de la médisance. Ah là, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Et automatiquement, mon âme, elle trouve toujours, il n'y a pas besoin de GPS. Jésus n'a pas dit « je suis le boulevard, l'avenue ou l'autoroute ». Jésus a dit « je suis le chemin ». David dit dans le psaume 27 « enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans tes sentiers ». Jésus dit encore « étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, évidemment. Et le Seigneur ne parle pas de facilité dans sa parole. Alors quand on sait Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers. On sait qu'on va aller vers des sentiers, on sait qu'on va aller vers des choses qui ne seront pas forcément faciles et qui ne nous arrangent pas forcément. Mais on sait que derrière, il y a la plénitude, il y a l'abondance, il y a la vie authentique, celle de Dieu qui coule à flot dans notre vie. Quand on sait vers quel sentier, vers quel terrain on va, on se prépare. Quand la voix de Dieu me dit « on va aller là », aujourd'hui, cette semaine, tu vois, on va aller dans le sentier du renoncement. Qui me parle ? Cette semaine, on va aller dans le sentier du psaume 37. Ne t'irrite pas, garde le silence. Ah mais il m'énerve, c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord, il m'a fait ça, c'est trop facile, il va pas s'en tirer comme ça. Non, et puis tu te souviens quand il m'a dit ça, eh ben moi je suis pas d'accord. Ça c'est une autoroute. Et quand on sait qu'on va aller dans un sentier qui sera pas facile, on se prépare en conséquence. Quand je vais marcher un petit peu avec mon épouse, on aime bien aller sur les sentiers, sur les hauteurs. Ben, les sœurs, en général, quand elles vont faire une marche sur les sentiers en forêt, elles ne mettent pas de talons aiguilles. Elles mettent des chaussures en conséquence, une bonne paire de baskets. Quand vous allez vous promener comme ça en forêt, vous ne mettez pas vos bottes de ski. Vous vous préparez, vous mettez en conséquence et vous prenez aussi les charges en conséquence. Si vous allez faire un petit tour comme ça sur les hauteurs, vous n'allez pas prendre votre caravane avec votre frigo et votre télé et votre canapé et toute votre garde-robe, etc., etc. Non, vous prenez ce qu'il faut en fonction de l'endroit où vous allez. Et il y a certains endroits, frères et sœurs, où le Seigneur veut nous emmener, où il faut absolument laisser de nous-mêmes. Il faut absolument décharger un maximum de choses. Parce que plus on veut voyager avec Dieu, plus on veut avancer, plus on veut aller loin avec lui, plus il va falloir se décharger de tout ce qui nous empêche d'avancer. L'année dernière, je suis passé dans les Alpes voir mon beau-frère, ma sœur et mon beau-frère. Et puis mon beau-frère, lui, c'est un fou de la randonnée. Il est capable de manger trois fois rien et de marcher pendant une semaine dans des terrains hallucinants. Pas un professionnel, mais c'est un passionné et il fait des randonnées magnifiques dans les Alpes. Et puis on était de passage avec Anne, Mathieu, moi. Et puis il nous dit, ben, vous voulez que je vous emmène faire une petite randonnée ? Alors, je dis, ok. On prend la voiture, hop, chemin, la route. D'un seul coup, ça se rétrécit. Waouh ! Puis il dit là, faut laisser la voiture, on va là-bas. Ah, j'ai regardé le truc, j'ai dit, j'aurais peut-être mieux fait de rester au lit, c'était plus facile. Mathieu me dit, allez papa, on y va. Ok, on y va. Hop, sac à dos léger. J'avais prévu en conséquence, je ne m'étais pas trop chargé. J'avais pas pris mon aigreur, j'avais pas pris mon amertume, j'avais pas pris ma méchanceté, j'avais pas pris ma critique, j'avais pas pris mon ego, j'avais pas pris mon orgueil, j'avais pas pris mon passé douloureux, j'avais pas pris mes injustices. Vous voyez, j'avais pas pris tout ça. Je me suis dit, on va voyager léger, juste une bouteille d'eau, une barre de céréales, et puis un caouet au cas où si ça se couvre là-haut. Et puis on commence à marcher, et puis ça se passe bien, on monte. Puis à un moment, mon beau-frère, il m'arrête, il me dit, maintenant, tu me passes ton sac. Je dis, non, je ne te passe pas mon sac, je ne me décharge pas, c'est mon sac. Il me dit, écoute-moi. Il me dit, à partir de maintenant, moi je suis expérimenté, pas toi. Donne-moi ton sac. Je dis, mon sac, il doit faire 2,5 kg à tout casser. Il me dit, je te garantis, là où je t'emmène, même tes 2,5 kg, ça ne marchera pas. Tu vas rester par terre. Je dis, bon, ok, d'accord. Je lui donne mon sac à dos. Puis là, encore, lui, il le prend. En plus, il prend mon sac sur son sac. Et puis, il y va. Et puis, on commence à marcher. Puis, à un moment, il m'a emmené dans des trucs. Il n'y avait même plus de chemin. On n'était même plus debout. On était comme ça. Et j'en ai bavé. C'était dur. Puis, après, il me regarde, il me fait... T'es content que je t'ai pris ton sac, hein ? Ah oui. Parce que là, même 2 kg, c'était absolument pas négociable, c'était pas gérable. Voyez, frères et sœurs, plus on veut avancer avec Dieu, plus il va falloir être attentif à sa voix, quand par moments il nous dit, non, même ça, tu t'en charges pas. Même ça, je veux que tu le déposes. Même ça, je veux que tu abandonnes. Il faut que tu te décharges de tout ce qui va t'écraser et de tout ce qui va empêcher d'avancer. Et les blessures, le passé... Les douleurs, les difficultés, les injustices familiales, etc., et tout ce qu'on a décrit ensemble hier soir, mon Dieu, que c'est lourd, et qu'est-ce que nous, ça nous empêche d'avancer. Et voyez, c'est ce que David a fait avec son fils Absalom. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, le psaume 55. Je vous ai dit ce soir, c'est encore très simple et très pratique. Et j'aimerais vraiment pouvoir laisser la possibilité à beaucoup de frères et sœurs ce soir pendant le temps de prière de pouvoir réellement, réellement se décharger et d'être libérés de fardeaux qui les écrasent. Psaume 55. Verset 23. On sait que le psaume 55, je vous l'ai dit hier soir, a été écrit, je le rappelle, dans le contexte de la trahison d'Achitophel et de la peine extrême que David endure et qu'il ressent à cette occasion. On a lu quelques textes hier, je ne relis pas tout. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il fait devant cette peine, devant cette douleur, devant cette tristesse, devant cette situation sur laquelle il n'a pas eu peur de mettre des mots, une fois qu'il s'est reconnecté au berger. Verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Je préfère largement la version Sommer pour ceux qui l'ont, elle est beaucoup plus proche de la pensée originale. Tellement on devrait être prompt à se débarrasser de tout ce qui nous écrase au lieu de garder nos blessures, la version Sommer dit « Rejette ton fardeau, rejette ton fardeau sur l'Éternel parce que c'est lui qui prend soin de toi. » Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Voyez, frères et sœurs, prier, c'est pas suffisant. Si ça fait des années que vous priez pour la même blessure et qu'il n'y a rien qui se passe, excusez-moi, il faut se poser les vraies questions. Parce que vous savez, le Seigneur, il n'est pas sourd. Hein. Il dit qu'il savait ce qui allait sortir de ma bouche avant que ça sorte. Prier, ça ne suffit pas. J'aime même vous dire quelque chose. Se décharger sur le Seigneur, ça ne suffit même pas. Vous avez vos petits papiers avec vous ? Le premier verset que j'ai laissé sur votre petit papier, c'est celui-ci, dans la version Sommer, celui que je viens de vous citer. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Et le deuxième verset, c'est très simple, hein, mais c'est super dur à faire. C'est Asaph qui parle au psaume 81 qui dit « J'ai entendu une voix qui m'était inconnue. » Pourtant, Asaph, ce n'est pas un petit nouveau dans la vie avec Dieu quand il écrit ça. Hein. Mais il y a un moment, il y a quelque chose qu'il n'avait jamais réellement compris avec son cœur, qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pratiquait pas, connaître au sens de connaissance pratique, pas intellectuelle. Une voix que je ne connaissais pas. J'ai déchargé son épaule du fardeau, dit Dieu, et ses mains ont lâché la corbeille. Maël, tu peux venir devant avec moi, s'il te plaît ? Viens. Bien souvent, frères et sœurs, reste là, ma grande. Merci. Toi, tu joues le rôle du Seigneur, et moi, je fais le rôle du chrétien. D'accord ? Tu ne bouges pas. Parce que tu es le Seigneur, tu es très patient. Tu ne bouges pas. Bien souvent, frères et sœurs, on est là, avec les années qui passent, et nos enfants, ils ont su la charger, la corbeille. Les chrétiens de telle ou telle assemblée, ils ont bien su aussi s'arranger pour vous charger la corbeille, bien comme il faut. Et je suis toujours triste de dire, mais c'est la vérité, qu'il y a aussi des pasteurs qui sont super forts pour charger la corbeille des chrétiens. Et combien de fois, frères et sœurs, on est chargé, parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il y a eu tel souci, tel problème, telle difficulté. Et puis on est là, on prie, on dit « Seigneur, agis. Seigneur, règle-moi ce problème. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. » Le temps passe et il ne se passe rien. On a lu le psaume 137, verset 5, qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, il agira. » On s'est confié en lui, mais il n'a pas agi. Parce qu'on a eu bien du mal à comprendre ce que signifiait « remets ton sort ». Littéralement dans la pensée, « rejette, chasse ce fardeau loin de toi ». On a lu des dizaines de fois la première épître de Pierre, on l'a entendu prêcher, « Déchargez-vous sur lui de tout ce qui vous écrase, soucis, inquiétudes, fardeaux, mettez ce que vous voulez. » Et puis un jour, on comprend enfin, on se dit « Ah, quand même, il a peut-être raison le pasteur, il faut peut-être quand même que je lâche, que je dépose, que je donne, que je me décharge de ce fardeau au pied du Seigneur. » Et je fais ça. « Seigneur, j'ai vraiment compris que je n'arriverai pas à le porter tout seul. S'il te plaît, aide-moi. » Et tu veux partir avec, vas-y, va, pars avec. Mais vas-y, mais décharge-moi de mon fardeau. Mais pars avec, mais vas-y. Mais emmène-moi ce fardeau là-bas, Seigneur. Ça fait des années que je te prie, emmène-moi ce fardeau, Seigneur. Je veux pas de ce fardeau, emmène-moi ce fardeau, Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi?
On y est trop attaché.
Parce que je suis trop attaché. Parce que je ne veux pas le lâcher. D'accord? Merci, ma grande. Il y a tellement de fois, frères et sœurs, pardonnez-moi, on ne veut pas lâcher prise. La vérité, c'est qu'on ne veut pas perdre le contrôle. On voudrait bien que Dieu agisse. On voudrait bien qu'il nous donne un petit coup de main. On aimerait bien des petits moments faciles. Mais ah, pardonnez-moi, Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Je vais vous raconter une anecdote, enfin non, une histoire vraie. C'est une expérience qui m'a marqué, je l'avais oublié. C'est ma fille qui a fait ça une fois. Depuis l'âge de 13, 14 ans, très tôt. Ma fille, dans son cœur, elle a vu, elle a ressenti quel serait le garçon qui serait l'amour de sa vie. Et à l'âge de 13, 14 ans, elle n'était pas amoureuse d'une amourette, mais très sérieuse, elle était réellement, elle aimait vraiment ce garçon. Et dans son cœur, ma fille, elle voulait déjà avancer dans les voies de Dieu. Et puis en même temps qu'elle veut avancer dans les voies de Dieu, il y a un fardeau qui commence à l'écraser et qui l'empêche d'avancer, c'est qu'elle commence à être éperdument amoureuse de ce garçon. Mais le problème de ce garçon, qui est un petit peu, qui a deux ans de plus qu'elle, le problème c'est que lui, il n'a pas encore envie d'avancer avec Dieu. Il fait juste du tourisme dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Il passe dans l'église et puis le reste de la semaine, il traîne ailleurs. Il fait autre chose et il ne se donne pas au Seigneur. Et ma fille, dans son cœur, pour elle, c'est clair. Elle est tiraillée parce qu'elle est éperdument amoureuse de ce garçon. Elle est même convaincue que Dieu voudrait et pourrait faire un homme de Dieu de lui. Et puis qu'il pourrait... Mais il ne se passe rien. Alors elle prie. Mais il ne se passe rien, il ne change pas. Il continue à faire ses bêtises dans le monde et à venir faire, pardonnez-moi, on l'a tous vécu, je l'ai fait en mon temps, c'est pas méchant pour mon futur gendre, qui s'appelle Clément, et je vais vous expliquer, et qui fait l'hypocrite dans l'église. Et elle est tiraillée, et puis à un moment, elle voudrait, mais, et puis elle voudrait avancer, mais, et puis ça devient, cette situation devient pour elle un fardeau, vraiment une charge, un poids, ça l'empêche d'avancer, ça l'écrase, ça lui prend toutes ses pensées, ça lui prend toute son attention, ça lui prend toutes ses larmes, et... Cet amour devient un fardeau terrible. Elle a 14, 15 ans, même pas. Et puis un jour, elle part dans un camp. Et puis quand elle rentre de ce camp, on la voit, mais complètement transformée, complètement libérée, le visage rayonnant. Puis on lui dit, ma chérie, apparemment il était bien ce camp, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tu sais ce que j'ai fait, papa? J'ai compris que je devais lâcher ce garçon. Elle m'a dit, j'ai écrit son nom sur un bout de papier. Ça a été la décision la plus dure que j'ai eu à prendre de sa jeune vie. 15 ans, c'est pas énorme. Mais ça a été un déchirement, ça a été dur dans son cœur. C'était un sentier, c'était pénible, c'était difficile. Et il n'y avait pas d'autre voie que celle-là. Elle a écrit le nom de ce garçon. Elle a froissé. Elle a dit, Seigneur, je t'aime plus que ce garçon. Je te le donne. Et le soir du feu de camp, elle a mis le papier dans le feu. Elle a dit, Seigneur, il est à toi. Deux ans après, ou trois ans, je n'ai pas la mémoire des dates, mais ma femme, elle sait tout ça. Longtemps après, parce que pour elle, ça a été très long. Deux ans, trois ans après, Le garçon a fait une expérience de rencontre foudroyante avec Dieu. Le Seigneur l'a miraculeusement averti et lui a fait échapper d'un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Et là, du coup, ça lui fait un électrochoc. Il saisit, il revient à l'église. Et là, il vit une expérience authentique. Il se donne au Seigneur, il devient sérieux. Il commence à couper ce qu'il a à couper. Il coupe tout ce qu'il a à couper dans le monde. Il revient à l'église, il s'engage, il prend le baptême. Il est baptisé dans le Saint-Esprit, etc., etc., etc. Puis un jour, il vient voir ma fille, puis il dit... Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu veux toujours de moi? Et je suis super heureux parce qu'on a fait leur fiançailles au mois d'août. Vous voyez, frères et sœurs, on aimerait bien souvent que le Seigneur agisse. Et quand il n'agit pas, on s'impatiente, on trépigne, on tape du pied. On tourne en rond dans des questionnements, dans des pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et pourquoi ça ne s'est pas fait comme si, et pourquoi ça n'a pas été plus vite. Parce qu'il y a des moments, frères et sœurs, le Seigneur a déchargé de notre épaule un fardeau, mais il faut que nos mains, elles lâchent prise. Je connais des chrétiens, il faudrait vraiment qu'ils lâchent l'Église. Pas au sens où qu'ils n'y aillent plus, mais vous avez compris. Qui lâche telle ou telle église. Oui, je sais, vous avez souffert, c'est infâme. Ce qu'on vous a dit, c'est infâme. Peut-être ce que le pasteur untel, quand il vous a jugé, il vous a cassé alors que vous ouvriez votre cœur, c'est ignoble. Mais il faut lâcher ce pasteur. Il faut lâcher ce chrétien qui vous a critiqué. Il faut lâcher cette situation. Il faut lâcher votre enfant qui peut-être est en train de mettre sa vie, son foyer en l'air. Il faut lâcher peut-être des enfants qui sont en train de divorcer. Il faut lâcher peut-être un fils qui est homosexuel. Il faut lâcher. Ça ne veut pas dire que je les aimerai plus, ça ne veut pas dire que je les verrai plus jamais, ça ne veut pas dire qu'ils viendront plus dans ma maison. Si, bien sûr, il y aura toujours un contact. Vos enfants seront toujours vos enfants. Mais à un moment, ça se passe dans mon cœur, entre moi et Dieu. Seigneur, je lâche ça. Je me tais. C'est toi qui vas gérer. Je remets mon sort. Je rejette ce fardeau sur toi, Seigneur, parce qu'il est trop lourd pour moi. Je ne peux pas porter ça. Et cette corbeille qui est pleine de mes questionnements, pleine de mes raisonnements, pleine de mes mots M-A-U-X, pleine de mes mots M-O-T-S, pleine de mon aigreur, pleine de ma colère, pleine de mon amertume, pleine de mes blessures, pleine de mes pourquoi, pleine de mes incompréhensions, pleine de mes enfants, pleine de tel ceci, de tel cela. Je la rejette sur le Seigneur. Je sens qu'il ne faut pas qu'on aille plus loin ce soir. J'aimerais qu'on se recueille, s'il vous plaît.